Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
C'est reparti sur RMC pour les meilleurs moments du Super Moscato Show jusqu'à 18h. Si vous nous rejoignez, alors vous allez podcaster forcément les deux premières heures parce qu'il y a une pépite dans ces deux premières heures.
Dans le journal moyen deuxième édition, la fameuse viteuse de Vincent, moi j'ai du mal à m'en remettre.
Vraiment un vrai cadeau de Noël pour le
ça,
coup.
Ça c'est cadeau, c'est premier cadeau avant le passage du Père Noël cette nuit.
Alors avant le Kikadi, nous allons parler boxe avec notre invité vice-champion du monde de boxe olympique Yoyarlin César. Mais d'abord... Le tennis.
Oui, Gaël Monfils,
pas du tout
tennis.
Du rugby. Gaël Monfils qui va prendre sa retraite dans les prochains mois. Est-ce que c'est celui qui vous laisse le plus de regrets?
RMC, le Super Moscato Show.
Les Trois Mousquetaires est une œuvre mythique qui a traversé les générations.
Incroyable. Tenez, t'es qu'un premier tour. Oui. Mais c'est peut-être le début d'une saga, non?
Non.
Les Mousquetaires passent leur temps à se battre en duel.
Quand tu joues sur terre battue, il y a peut-être une addiction à l'odeur, au fait de marcher dessus, le toucher avec les pieds, tout ça.
À déjouer des complots.
En fait, il n'y en a pas, c'est sous ça que j'ai jamais joué.
Les Quatre Mousquetaires ont-ils véritablement existé?
Je sais pas, mais vous viviez ferré, mais je crois que j'ai gagné le dernier match sur terre battue.
Ressemblait-il au personnage inventé par Dumas?
Mais les deux, Siadec et Salabaranta.
Il est temps de lever le voile de la fiction et de mettre en lumière des vérités jusque-là méconnues.
Je veux dire, il y a un adversaire en face et ça. Voilà, moi j'aime. C'est super comme sport. Breaking news.
Alors.
Mais oui, c'est super.
On débat de Gaël Monfils avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut,
Eric est une sorte de fan en amouré de Gaël Monfils depuis toujours.
Et on répète pour les auditeurs.
Un auditeur,
un sosie de Lionel Jospin.
Notre spécialiste tennis, RMC Sport.
Depuis 20 ans, oui.
Gaël a annoncé la fin de sa carrière dans un an. Il aura alors 40 ans et donc toute la génération dorée baptisée les nouveaux mousquetaires sera à la retraite. Son gars Gasquet Simon Monfils, de ces quatre-là, Monfils est-il celui qui vous laisse le plus de regrets? 32-16. Eric, tu vas nous rappeler les moments forts, les moments de bascule de la carrière de Gaël.
Oui, parce que dans sa petite lettre qui a été publiée hier matin, il le dit, j'ai pas de regrets. Moi, j'ai des regrets.
Suzanne n'enregistre pas. Elle se marre déjà.
J'ai des regrets.
Tu bois maintenant, non?
Je n'arrive pas à croire. Je peux le tutoyer?
Oui.
Alors, je tutoie, Gaël, s'il nous écoute. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies atteint que deux finales de Grand Chelem. Avec ton physique, tes jambes de feu. Mais bon, en 2008, à Roland, t'étais trop jeune face à Roger. N'est-ce pas, Stephen? Et en 2016, à Flushing, c'était ta bête noire, Djoko. Je n'arrive pas à croire que tu te sois fait harakiri le 4 juin 2014 sur le Châtrier face à Andy Murray en quart. La nuit tombée, tu venais de revenir à deux manches partout, tu te sentais fort, tu voulais achever la bête écossaise et tu prends une bulle au 5e set. J'arrive pas à y croire, encore. Je n'arrive pas à y croire qu'à un moment de ta carrière, tu avais un ratio de 4 titres en 23 finales. Heureusement, avec l'âge, tu as soulevé 9 autres trophées en 10 ans. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas une médaille olympique dans ton armoire. Ce quart de finale à Rio en 2016 face à Kei Nishikori me trouble encore. 7-6, 4-6, 7-6, 3 balles de match ratées. Et puis, là c'est très sentimental, je n'arrive pas à croire que tu ne figures pas sur la photo de famille lors de la finale de la Coupe Davis 2017 à Villeneuve-d'Ascq. Tout le tennis français est autour du salé d'argent. Yann, Joe, Richie, Gilou, Lucas, Jérémy, Pierre-Hugues, Nico, Bennett. Et tu n'es pas là car tu n'avais pas joué un match de cette campagne victorieuse l'année d'avant. Tu avais froissé le capitaine Yannick Noah, qui s'était décarcassé pour amener une rencontre en Guadeloupe. Noirs. C'était sur ses terres et tu n'avais pas franchement sauté au plafond. Et Yann s'en était souvenu.
Alors, Eric n'en revient pas. Et toi, Vincent?
Tu refermes la boîte de cirage et le chiffon, s'il te plaît. T'arrêtes de... Bon, non, mais oui. Bah, tu sais quoi? Je l'ai plus apprécié sur la fin qu'au début. Au début, je le trouvais nonchalant un peu. Tu sais, ces jeunes générations qui comprennent pas, mais comme tout le monde, d'ailleurs, qui comprennent pas souvent qu'il faut énormément travailler parce que ça va passer très vite. Ça va passer très vite. Et là, sur la fin, ça l'a aperçu, ça. Il a essayé de rattraper le temps perdu. Il a essayé de le rattraper, mais les blessures se sont accumulées. Les trucs comme ça. Il avait un talent énorme, mais il a rencontré le problème physique, a tout rencontré toute cette génération des quatre mecs, qui étaient dans la tête, c'était pas des boxeurs. Ça aurait été des boxeurs. Il avait le talent tennistique, il avait le physique pour pouvoir peut-être prendre un grand chelem ou deux, voire peut-être même un peu plus comme Tsonga.
Et ça donne des regrets, ça, ou pas?
Oui, moi, ça me fait des regrets.
Lui, plus qu'un autre, ou pareil?
Non, gars, lui, non, lui, en tête de série avec son gars, les deux.
Les deux à égalité?
Les deux au-dessus. De tous les autres mousquetons au-dessus, parce que physiquement, autrement, capable de d'exploit, de glissette sur le côté, de vitesse, de tennis. C'était capable. Mais il s'en est aperçu trop tard. Et c'est pour ça qu'il a essayé de rattraper le temps, de remplir son armoire qu'il n'avait pas rempli jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'y avait pas beaucoup de trophées. Et tu peux pas. Le temps perdu ne se rattrape plus. C'est fini. Tu ne peux pas combler les choses. C'est fini. Tu t'en aperçois. Il a essayé de faire durer le truc en espérant accrocher peut-être un grand titre. Il n'a pas pu parce que le temps était passé. C'est dommage. J'ai des regrets pour lui parce qu'il avait le potentiel pour le faire. Mais trop tard.
Et Stephen Brun.
Écoute, qu'on ait des regrets pour lui, je suis pas sûr que lui ça l'intéresse beaucoup. Moi,
non mais on parle pour nous.
Ouais, ouais, bien sûr. moi, j'ai fait une croix sur Gaël. À partir du moment où j'ai compris que il a pas toujours mis le tennis au centre de sa vie. Ouais. Au final, le résumé de sa carrière, c'est ça, c'est que à un moment donné, lui, il avait d'autres passions. Et c'est pas une critique, il avait d'autres passions.
Non,
il a envie, c'est un peu
le boulard, ça. Ça, c'est
je sais pas.
C'est le mec qui vient qui dit ouais, moi ma passion c'est de faire du saxo, de la guitare.
Il avait envie parfois de faire autre chose. Il avait d'autres passions et que je pense qu'il n'a pas tout mis ce qui était en son possible pour performer. Moi, j'ai des. Bah, bien sûr que j'ai beaucoup de regrets. À Roland-Garros, j'étais là. Quand j'arrive sur le Châtrier où il y a 2-7 partout et je m'attends à un truc exceptionnel et qu'en 20 minutes, le 5e set, il est terminé face à Andy Murray. Il aurait dû être médaillé à Rio en 2016. Quand je vois que c'est. À un moment donné, on disait toujours Del Potro, Wawrinka, Cilic, ils ont réussi. Parce qu'à un moment donné, ils ont une petite. Porte ouverte, elle était entrouverte la porte. Ils sont rentrés. Gaël n'a pas su le faire en 2014 quand il perd contre Federer avec balle de match. C'est Cilic qui gagne et quand il joue Nishikori en finale, tu te dis pourquoi c'est pas Gaël. Il aurait dû être là, Gaël mon fils. Maintenant là où je suis triste et Eric l'a dit, c'est que la Coupe Davis, son investissement pour la Coupe Davis. Quand on voit cette vidéo où il met en scène, elle est très bien d'ailleurs cette vidéo où il y a joué Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet, cette petite mise en scène pour annoncer sa dernière saison. Ça veut dire que ces mecs-là ont créé quelque chose pendant 20 ans. Et ça veut dire que toi, à un moment donné, t'as joué qu'un match avec eux. Un match avec eux. Ça veut dire que le seul moment dans une carrière de tennis où tu peux jouer avec tes potes, c'est la Coupe Davis. Et t'as pas eu envie de le faire. Eric le dit, Yannick Noah, il va jouer en Guadeloupe contre le Canada pour faire plaisir à Gaël, mon fils. C'est la fameuse interview de Denis de la voiture qui est exceptionnelle.
Sans avoir dormi la nuit.
Gaël, il avait même pas envie de jouer, il avait même pas envie d'être là. Et moi, j'ai ces regrets-là. Et j'ai un autre regret, c'est que face à Nadal et Federer, il en a gagné quelques-uns. Et quand tu prends 20-0 sur ta carrière face à Djoko, moi ça me fout les boules. Pas une fois t'as battu Novak Djokovic. C'est-à-dire que tu vas prendre ta retraite sans l'avoir battu. Il reste un an.
Même Julien Benneteau l'a battu.
20-0 contre Novak Djokovic.
C'est sympa pour Julien.
Ouais, c'est super sympa pour Julien.
20-0.
Mais c'est pas ça que je voulais dire.
Est-ce qu'on peut se satisfaire que ça soit une star du circuit, que quand il partageait un cours avec Federer, c'est peut-être la seule fois où Federer n'a pas l'unanimité du public parce que Gaël Monfils, les gens viennent voir Gaël Monfils. Est-ce que c'est ça le bilan de ta carrière? C'est bien.
Oui, mais
c'est bien. Il a donné des émotions.
C'est pas bien. C'est très bien. Non, mais quand tu dis ça, c'est ça.
Je comprends pas que tu dises ça. Bah,
pourquoi?
Mais parce que le mec, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Je sais pas, moi.
Non.
Denis.
Moi, c'est mon sentiment. Je veux dire, moi, j'ai pas de regrets pour lui. J'espère que lui, par contre, il a beaucoup de regrets. Quand je l'entends dire, j'ai pas de regrets. Non mais c'est des conneries ça.
Tu crois qu'il ment un peu?
Et comment tu peux pas avoir de regrets que le mec fait une carrière au haut niveau en tennis, tu fais pas la Coupe Davis, c'était au moment où tes potes vont gagner la Coupe Davis, t'es pas là, tu gagnes pas un grand chelem alors que t'as toute la capacité, le talent d'en gagner un. Je sais pas moi, d'un moment donné, tu es obligé d'avoir des regrets. Tu te dis mais il y a un truc qui a cloché à un moment donné, il y a un truc, je me suis pas centré là, j'étais mal entouré, j'ai fait, mais quand même moi le premier, j'en ai fait du sport avec Vincent, moi j'ai plein de regrets. Je sais pas moi si je te dis aujourd'hui j'ai pas de regrets, c'est que je suis un menteur. Après. Je pense qu'il avait pas peut-être c'est pas un problème de caisse, c'est un problème
c'est mental.
Après de mental. Je suis désolé, quand tu prends 5-0 au 5e contre Murray alors que tu reviens dans le game, tu te dis mais le mec qui s'effondre. Je sais pas moi, il y a un truc chez moi, chez lui qui est assez bizarre.
Attends. Le truc qui est revenu tout le temps, c'est l'entraînement. Le truc qui est revenu de cette génération, quand tu parles de mental, ils se sont pas tués à l'entraînement.
Pas
tueurs,
mais ça, c'est pas trop.
C'est ta certitude.
Est-ce que c'est appuyé par des faits?
Non, mais Richard, tu as regretté un truc juste. Toujours mal commenté. Toujours très mal commenté. Ça, c'est la fin.
Non, mais tu vois, là, quand je vous entends parler, j'étais plutôt de l'avis de Denis. Moi, ce mec-là me donne l'impression qu'il n'y a rien à regretter parce qu'il a fait tout ce qu'il a voulu.
Oui.
Que quand il s'est pété, c'est parce que son jeu réclamait tellement d'énergie que de toute façon, ça pouvait difficilement se passer différemment. Alors que pour son gars, moi j'ai l'impression que lui a payé un dos fragile qui l'a empêché d'exprimer tout son potentiel.
Il y a une blessure.
Oui. Moi j'ai l'impression que son gars était plus proche de gagner et que malheureusement il a été rattrapé par son physique.
Alors lui a manqué 2-7. Hein,
alors que Gaël, moi j'ai l'impression qu'il est allé au max de ce qu'il pouvait faire.
Moi je pense qu'il est allé au max.
Les tournois qu'on a rappelés, il a un niveau de jeu. Quand il arrive contre Djoko en demi-finale, il n'a pas perdu un set, il est hors norme. Il arrive contre Djoko.
Mais peut-être qu'il a la capacité de battre Djoko.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a un problème.
Donc la marche,
il n'est pas le seul à ne pas avoir la capacité à battre Djoko.
Non, mais Djoko, tu me dis.
Oui, mais tu peux avoir une analyse technique qui peut le mettre mal. Il peut à un moment donné, Benetton l'a battu. Je reprendrai les propos de
d'Adrien.
Même Benetton, il y avait des trucs à faire. Il avait les moyens sur un coup de peut-être sur 20 fois de le prendre une paire de fois. Mais c'est atroce.
C'est pas du tennis, ça.
Oui, mais
comme il dit, s'il est en feu tout un tournoi, c'est qu'il s'est bien entraîné.
Moi, je te dis, il avait des qualités tennistiques très bonnes. Ouais. Après, il avait un physique qui était costaud, très grand. Il pouvait faire. Après, mentalement, quand tu te fais mal à l'entraînement, tu te fais mal. Après, t'es costaud dans le jeu.
Moi, pour en parler souvent avec Yannick. Yannick, il adore Gaël, hein, je veux dire.
Mais il adore tout le monde.
Non, mais c'est vrai, non.
Le problème, il est là.
Il était très exigeant avec lui. Il était très dur avec Gaël.
Son dos, hein.
Mais comment il a encaissé l'épisode de Guadeloupe, là?
Mais très mal.
Ah oui.
Bien sûr.
Mais bien sûr qu'il a eu le boulot, Yannick.
Mais c'est senti trahi.
Mais comme totalement trahi, c'était pour lui. Il avait fait ça. Il avait fait ça pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il est revenu chez lui.
Il voulait pas jouer.
Non, mais c'est vrai.
Il voulait pas jouer.
Il voulait pas jouer. Il a été très, très déçu de son comportement.
De son comportement, mais il a bien fait, Yannick, je te le dis. Ah. Voilà. Non, parce qu'en plus, tu vois, Yannick, pour qu'il aille sur quelqu'un, quand même, faut y aller, faut que le mec, il sorte la cage
d'un corps. Il a fait ça pour lui, Vincent.
C'est quand même un mec qui a de l'empathie envers tout le monde. Donc, l'autre, il fait
mais
ça pour lui,
lâché.
Il met une carotte. T'as de quoi te fâcher, t'énerver quand même un peu. Non, puis à la sortie, bon, ben voilà.
Nicolas, 32-16. Est-ce que mon fils est celui qui vous donne le plus de regrets? Salut, Nicolas.
Salut Nicolas.
Boucher charcutier à Périgueux.
Oh, fou. Ouais.
Tu vas avoir les joues rouges, toi, forcément, j'ai la charcuterie, non? Tu vas avoir des grosses joues rouges. Est-ce que tu mets du persil, des fois, dans les oreilles, pour accueillir les crosses? Avec le poire dans la bouche, comme ça, tu te mets à vitrine. T'as du cholestérol, sûr?
Non, Vincent, il le fait, mais pas pour accueillir les amis.
Moi, je mets, c'est pas une poire, c'est une petite boule.
Bon, en tournée, en tout cas, c'est la première fois que je passe à l'antenne.
Je te remercie. Et ça se passe bien à Périgueux?
Oui, c'est très bien.
J'avais tourné un grand film, moi, qui s'appelait Les Gaous, avec Richard Boyer.
Je suis venu te voir en spectacle à Périgueux.
Il a été bon?
Pas trop cher?
C'est le Magic System?
Non, ça va.
Comment s'appelle ta boucherie?
Je travaille à Tradition Charcutière Bio.
Bah, ça va, bio, encore. Ah, l'escroc bio! Oh là là, comme vous connaissez, quoi. Il y avait des granulés qui viennent de Pologne, où les nourrissons. Allez, d'accord. T'es fou, quoi. Allez, vas-y.
Bon, Nicolas. Alors, est-ce que c'est celui qui te donne le plus de regrets, Gaël, mon fils?
Oui, parce que franchement, il avait un niveau de jeu tellement extraordinaire parfois qu'il aurait pu tellement aller loin dans les 15 jours de Grand Chelem. Mais après, le problème, c'est ça, quand il tombe en demi-finale contre des extraterrestres comme Djokovic, c'est compliqué de pouvoir rivaliser avec eux, quoi. Donc voilà, il est tombé aussi dans une période où il y avait trois extraterrestres du tennis, quoi. Donc c'est vraiment pas facile d'aller choper un grand slam, quoi.
Oui, mais c'est curieux, mais il y a Medvedev qui s'est
mis à la
Vavrinka. Il y a eu des mecs, et nous, jamais.
Kim.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu quelques mecs qui ont réussi à se greffer dans nos quatre lumières là, avec parce qu'on parle pas de Richard, mais Richard aussi quand même, il était caché.
Richard, c'est le plus talentueux.
Ils auraient pu quand même, moi, ils ont bien quand même.
Richard, moi, je comprendrais plus que vous me disiez que vous avez des regrets parce que techniquement, Richard, c'est
incroyable.
Tu peux pas perdre. Oui, mais Richard, tu peux avoir beaucoup de regrets.
Et ben voilà.
Ah oui.
Flo, c'est vrai.
Parce que vraiment,
le plus beau revers à une main du circuit avec du rodeur pour moi.
Vraiment, Gaël pouvait faire plus que ce qu'il a fait.
Oui, Pierre.
Mais oui, sûr que c'est de ça, toi.
Comme Flo, il avait perdu finale du tournoi de Langon à côté de Bordeaux.
Merci, Nicolas.
Vincent, quand même, il y a deux, trois ans, on est parti quand même. Quand Gaël fait son festival, il remonte le.
Ouais, Neng, il joue.
C'est pareil.
Il a fait venir Neng à
Sébastien Baez.
Le mec, je te jure, Pierrot, il dépassait pas le filet.
Non, mais
il s'est fait extasier de voir Gaël, mon fils, torturé.
T'es parti au 5e pendant que tu bouffais ton entrecôte.
Oui, j'étais mangé, j'en pouvais plus. Je suis arrivé, le mec.
C'est là où on voit que tu as passion pour le sport et suspect. Écoute-moi,
moi j'étais de cul, tu sais, en boule là-bas, tu sais, pas sur les côtés. J'ai dit, mais où il est, le mec en face? Il est passé par le filet, je le voyais pas, il est en face.
C'est un super match.
C'était un premier tour de Grand Chelem. Et Gaël s'est détruit.
Oui, mais tu restes jusqu'au bout du match, quoi.
Il a fait le match de Gaël pour finir avec le type là. Même pas été, il faisait le tête moine de Pujadas. Écoute-moi, il a fini, il a fallu qu'il se sorte en 5 ou 6 sets, même 8, il en a fallu. Je te jure, c'était.
Quand t'es parti,
je me suis, la gamme, je
après, il m'a dit, on s'en va.
Une tête de moins que Pujadas. Ah,
mais ouais. Quelle honte, il m'a dit, on s'en va. Allez, on troisième set.
Et Gaël. Gaël Monfils, on les a bien aimés, hein, cette génération. Vincent était très sévère avec eux, mais on les aimait bien. Quand
Gaël Monfils, on n'a pas beaucoup eu dans le Moscato Show.
Alors lui, non. Je pense que lui, il ne fait pas de calcul.
Beaucoup de médias, Gaël, de toute façon.
On a eu Gilles Simon.
On a eu son gars au début.
Ouais, au début. Après, il nous faisait la gueule, mais c'est normal.
Dont on s'est le plus moqué est venu tout le temps. Richard Gasquet, parce qu'on adore Richard.
Richard, il nous aime bien, donc lui, il vient dans l'émission.
On va parler de boxe, Pierrot.
Ils ont droit de pas nous aimer.
Tout à fait. Alors que nous, on aime tout le monde. Vice-champion du monde de boxe, il y a du lourd à venir dans le Super Moscato Show.
Yo Yerline César, et puis une question récurrente, est-ce que les Bleus du foot doivent absolument jouer au Stade de France? A tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show jusqu'à 18h. Avant le Kikadi, un très bel invité parce qu'on aime la boxe.
On
sur
aime.
RMC. Il est vice-champion du monde de boxe olympique. Il s'appelle Yo Yerline César.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
C'est la nouvelle génération de la boxe olympique française. Il est vice-champion du monde à Liverpool il y a quelques jours. Yo Yerline César, vice-champion du monde donc en moins de 80 kilos. Bravo. Salut Yoré.
Oh, bonjour.
Yoré, ça passe.
On te découvre, donc on découvre aussi ton nom et ce prénom qu'on connaît pas, qui est espagnol, c'est ça?
C'est
ou ça, hispanique?
C'est Dominique.
Ah,
Yoré,
ah
oui.
C'est Dominique. Hein.
Oui. Yoré César, l'impérateur. Comment ça va? Bon, merci d'être venu dans le Super Moscato Show, ça nous fait plaisir. Il paraît que t'as moins du pâté quand même.
Merci beaucoup. Dire,
il paraît que t'as pas des plumeaux au bout des mains. Hein. Quand t'en vois, t'en vois.
En tout cas, Vincent, il est dans le studio en cravate.
Magnifique.
La classe.
Très sapé. Tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais voir Vincent, un roi de la sable. Je me prépare.
C'est ça.
Il y aurait revenons sur cette médaille d'argent que tu as dans la poche, je crois. C'est l'aboutissement d'une grosse saison parce que t'as aussi gagné la Coupe du Monde à Astana, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que cette médaille d'argent te comble de bonheur ou est-ce qu'il reste de la frustration de ne pas être champion du monde?
Juste après le combat, j'ai eu beaucoup de frustration de ne pas avoir ce titre car j'aurais pu devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire en boxe. Mais au fur et à mesure du temps, je savoure parce que cette médaille d'argent, elle représente beaucoup, beaucoup de travail, surtout en peu de temps, parce que juste après les tournois de qualification pour les Jeux de Paris, je n'ai pas pu me qualifier de peu. Mm-hmm. Mais
ça, c'est une grosse motivation, je crois.
Exactement, oui. Et juste après ça, j'ai mis un travail en place, que ce soit avec mon staff et l'équipe de France, et ça a très bien marché. La preuve, cette médaille d'argent, c'est pour moi un synonyme de réussite et ça présage du bon pour le futur.
Alors, en finale, face à l'Ouzbek, Javokir Umataliev, tu es compté. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il reste quand même une marche pour battre les tout meilleurs de ta catégorie?
Le comptage, je trouve qu'il n'était pas vraiment justifié parce que je n'étais pas sonné. En fait, c'est parce que j'ai fait une sortie. J'étais un peu déséquilibré, je n'ai pas eu le temps de me replacer et il en a profité pour porter un coup. Et le juge a estimé cela comme un coup où il fallait me compter. Or, je ne l'étais pas. Et au fur et à mesure du combat, juste après, je suis bien revenu. Et franchement, je trouve qu'avec un peu plus de travail, c'est un adversaire que dans le futur, je pourrais vaincre.
Alors, d'autant que cette année, tu as battu vice-champion olympique kazakh Nourbek Oralbay, que le champion olympique est passé chez les pros. Donc maintenant, l'objectif, c'est de, je suppose, hein, de dominer la catégorie.
C'est ça, exactement.
Vincent.
T'es mis lourd, tu fais 80 kilos à peu près. C'est quoi la limite? C'est quoi un amateur? 81, 82?
C'est 80 kilos.
80 kilos, c'est la limite.
Chaque matin de combat, on fait la pesée. Je dois être en dessous des 80 kilos.
En dessous des 80 kilos, tu fais quoi? Presque 1,87, 8?
Je fais 1,91 m.
Ah ouais.
1,91. Ça veut dire que en amateur ça va passer. Avec le temps, bien sûr, après Los Angeles, tu vas vouloir passer professionnel. C'est quand même une des bases quand même de ton métier. Il va falloir un jour rentrer un peu de fraîche, un peu d'oseille quand même. Mais par contre, avec le temps, tu sais que ça va être très dur de te maintenir à 80 kilos. Il va falloir que tu montes de catégorie.
C'est ce que les gens me disent. Franchement, avant j'étais en moins de 75 kilos et pareil, les gens me disaient que j'allais galérer à faire le poids. Au final, il a fallu que je monte parce que la catégorie des 75 kilos n'était plus olympique.
Tu pouvais pas.
Exactement. Et même par rapport à ma taille, ça devenait vraiment compliqué. Ouais, ouais. Mais là,
je suis lourd après.
C'est ça. Et non, là, je suis monté en mi-lourd pour léger. Ouais. C'est la même chose.
C'est la même chose.
Là, je suis en 80 kilos et franchement, je pense qu'il me reste encore quelques belles années dans cette catégorie avant de monter. Ouais. Monter.
Mmh. Ce que je vois, c'est souvent c'est le parcours des Holyfield. De Mohamed Ali, mi-lourd à Rome en 1960, qui faisait un 93 à peu près, 93-14, qui faisait 80 kilos, Mohamed Ali. Holyfield à Los Angeles en 84, fait moins de 79 kilos, il est monté après en poids lourd. Donc après, c'est direction la salle de muscu, puis prendre de l'oseille en poids lourd. Combien tu fais d'envergure? Tu fais 91, tu fais combien?
D'envergure, je sais pas, mais, enfin, je sais que je fais 1m91.
Tu vas avoir un 95, un 96.
Les gauchers,
t'es gaucher. T'es gaucher. Bah, écoute-moi, il me tarde de te voir. Après Los Angeles, quand tu seras médaillé d'or, monter en poids lourd. Parce que là, après, c'est poids lourd. Il faut pas batailler. Il faut prendre de l'oseille.
Avec Yorerlin César, le vice-champion du monde des moins de 80 kilos en boxe olympique.
La logique voudrait que tu passes professionnel après les JO.
Oui.
C'est ça la logique.
Ah bah oui.
Mais aujourd'hui, ta vie, c'est. Tu me disais que tu entraînes tous les jours comme un pro, en fait.
Oui.
On ne peut pas dire que
parce que la boxe olympique, c'est quand même du sport de haut niveau à 100%. On appelle boxe professionnelle. Les boxeurs sont en dehors du circuit olympique, mais
savoir comment ton quotidien.
Mon quotidien, c'est entre études et sport. Du coup, parce que je suis dans un bachelor qui s'appelle le bachelor EPTA et c'est exclusivement pour les athlètes de haut niveau. Et on est répartis dans trois établissements. Oui, c'est aménagé. C'est 80% en distanciel et 20% en présentiel.
C'est entre Sciences Po, l'ESSEC et Supélec.
Exactement.
Sur le CV, ça claque.
J'étais en sixième aménagé, mais moi, c'est parce que j'étais neuneux.
Mais t'arrives à vraiment suivre des études ou c'est...
Franchement, oui, je m'en sors plutôt bien. Et au niveau de l'organisation, ils font vraiment en sorte qu'on puisse bien suivre les cours.
C'est important, ça.
Et on a également des profs qui nous aident lorsqu'on... On a des difficultés dans certaines matières.
Alors, si on se projette.
Il y en a un que vous connaissez, qui avait fait ses études là. Un ancien boxeur, c'est Franck Chiozzo.
Oui.
Il avait fait ses études.
Il a révélé sur le tard. Il le cache. Ouais. Il est encore en train de finir son cursus, d'ailleurs.
Ouais. Yorerlin, si on regarde justement, et si on se projette un peu sur l'après-JO, l'après Los Angeles, dans ta catégorie, actuellement, parmi les meilleurs boxeurs du moment, des Beterbiev, des Benavidez, des Calum Smith, sous tous ces noms-là, tu te sens déjà capable d'aller les chercher ou t'en es très loin encore?
Ce sont des gros noms. Je pourrais pas dire que je me sens pas capable d'aller les chercher, mais c'est encore un autre monde et comme je suis sur du 3x3, je sais pas encore comment me situer exactement. Oui. Je sais pas encore comment me situer sur des 10 rondes de 3 minutes.
Ça te fait rêver ces noms-là?
Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis toujours. C'est lorsque j'affronte des personnes qui sont fortes ou qui ont une certaine expérience, ça m'anime énormément et j'adore avoir ce genre de confrontation.
Est-ce que t'as un modèle dans la boxe?
C'est Floyd Mayweather et Gervonta Davis. L'un est un boxeur très technique qui a une très bonne tactique et l'autre c'est un frappeur Gervonta Davis
et Usyk. Techniquement, il est incroyable.
Vraiment. Usyk,
techniquement, il fait 1m88 ou 10.
C'est ça.
Et c'est 100 kilos à peine, en mangeant 4 fois par jour. Mais techniquement, quel boxeur incroyable.
C'est qui le plus fort en ce moment pour toi?
Pour moi, ce serait Usyk.
Toujours là.
Parce que, tout d'abord, il vient des 80 kilos, donc des mi-lourds, et il est monté en super lourd, et même comme ça, il parvient à battre tout le monde. Donc c'est juste exceptionnel ce qu'il parle.
Alors un super lourd, un professionnel, c'est lourd. C'est à la catégorie lourd et super lourd, c'est un amateur.
En amateur, on a mi-lourd, lourd et super lourd.
Et c'est, oui, c'est voilà, pareil. Mais qu'un professionnel, c'est lourd, lourd léger et lourd.
Exact, oui, c'est
cas,
ça.
En tout cas, en dehors du ring, tu m'as l'air d'avoir plus le profil Uzi que Tyson Fury.
C'est quoi ton style? Comment tu te définirais pour quelqu'un qui t'aurait jamais vu boxer?
Je dirais que j'ai un style assez atypique et que je parviens à garder mon sang-froid, peu importe les situations que je peux rencontrer sur le ring. Et c'est ça qui me permet de gagner mes combats.
T'es un showman?
Hein?
T'es un showman ou pas sur le ring?
En fait, j'ai cette réputation, mais je fais pas ça exprès. C'est en fait, c'est vraiment quand je combats, je prends vraiment plaisir sur le ring. C'est
pour ça que tu fais un peu de trash talk sur le ring ou pas?
Non, pas trash talk, mais ça m'arrive de sourire, de rigoler, de parler même des fois. Mais c'est pas méchant, c'est vraiment parce que.
Arrête-toi la plume ne fais pas ça. Par contre, je voulais poser une question. Ah oui, tu boxes en gaucher. Ça peut être un avantage, mais c'est quand même dangereux. C'est aussi un inconvénient par rapport aux droitiers. Ça peut être un inconvénient pour les droitiers, mais un inconvénient pour toi. Tu apprends à boxer en droitier.
Ça m'arrive de changer de garde de brefs moments, mais c'est vrai que ça peut être un danger tantôt pour les droitiers que pour les gauchers. Mais comme on a l'habitude, on essaie de bien visualiser l'angle mort, on va dire, pour éviter
de pas tourner du mauvais côté, tout c'est ça, pour pas prendre à la droite.
Yor Erlin César, vice-champion du monde de boxe olympique à Liverpool en moins de 80 kilos, avec toute une carrière devant lui, puisque tu as 21 ans,
futur champion olympique.
On te le souhaite en tout cas,
n'oublie pas ta médaille.
Yor Erlin César, c'est la boxe dans le Super Moscato Show. Merci encore d'être venu.
Très sympa, très simple, très sympa. Un bon client.
On espère qu'il continue sa belle carrière.
On va parler des Bleus, de l'équipe de France de foot et du Stade de France, Pierrot.
Oui, puisque avec les travaux du Stade de France, avec les Jeux Olympiques de Paris, tous les matchs des Bleus n'ont pas eu lieu dans l'enceinte de Saint-Denis. Est-ce pour vous une obligation? C'était le 9 septembre sur RMC.
RMC, le cri de gueule du Super Moscato Show.
Alors, l'équipe de France reçoit l'Islande au Parc des Princes ce soir. Ce sera d'ailleurs le cas pour les trois matchs à domicile de cette campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026, parce que le contrat avec le Stade de France est terminé. Donc, il faut le renégocier. Mais l'équipe de France doit-elle forcément jouer au Stade de France? C'est la question qu'on vous pose. Nicolas Pelletier, bonjour.
Salut les amis.
Salut Nico.
Salut.
Alors, est-ce que les Bleus du foot vont retourner au Stade de France?
La Fédération Française de Football espère retrouver le Stade de France pour le premier rassemblement de 2026, mais c'est encore loin d'être fait. GL Events, le nouveau concessionnaire du stade depuis plusieurs semaines, n'a pas encore repris les négociations avec la Fédération, mais cette situation pourrait changer dans les tout prochains jours. Les deux parties doivent se rencontrer pour discuter autour d'un potentiel accord qui doit permettre le retour des Bleus, mais aussi de la finale de la Coupe de France. La FFF souhaite une formule différente et ne souhaite pas avoir le même contrat qu'elle avait avec l'ancien concessionnaire, surtout qu'elle arrive en position où elle connaît globalement le prix demandé à la Fédé de rugby pour jouer dans l'enceinte, autour de 900 000 euros par match, à un prix assez intéressant. En dehors des éléments financiers, il faudra aussi guetter l'impact des travaux de modernisation du stade sur l'organisation des affiches. La FFF pourrait en profiter pour faire baisser le loyer demandé. Si cela a un impact sur les places en vente, les deux parties ont un intérêt commun à s'entendre pour le retour des Bleus au Stade de France, mais les négociations ne seront pas simples et peuvent durer plusieurs semaines. Dans le même temps, la FFF doit informer l'UEFA et la FIFA des lieux des prochaines rencontres internationales de l'équipe de France, donc le temps presse pour la Fédé de foot.
Alors Vincent, est-ce que les Bleus, c'est forcément au Stade de France?
Pas du tout.
Non?
Bah non, non. Ah non, 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 mais moi je suis heureux que l'équipe, même si l'équipe de France de rugby revenait au Stade de France, je serais heureux. Si l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby revenait au Parc des Princes, je serais heureux. Si l'équipe de France de foot joue au Parc des Princes, je trouve que c'est le poumon de Paris, le vrai stade emblématique, historique, c'est le Parc des Princes. J'ai eu la chance de jouer aux deux, je vais te dire que le Parc des Princes.
De gagner aux deux.
De gagner aux deux.
Soyons précis.
Ne fais pas le modeste, mais ça. Nous savons tous que tu as été plusieurs fois champion de France sur tous les stades du monde.
C'est le titre de gloire, il n'y en a pas beaucoup non plus. Écoute, je trouve que c'est le stade, c'est comme Mayol à Toulon, tu vas à Mayol ou Marseille, le stade, le Vélodrome, il est au cœur de la ville, ça change tout, il est au cœur de la cité, je veux dire, la cathédrale, elle est pas, si, il y en a une à Saint-Denis, alors on peut dire, oui, il y en a une à Saint-Denis aussi, donc, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire,
pour toi, c'est le parc.
Le parc, tu sors, t'es aux trois obus, t'es là, t'es porte 5 clous, et non, mais c'est vrai, mais oui, Pierrot.
Alors qu'au Stade de France, tu sors, t'es à Leroy Merlin.
Ouais, c'est vrai. Le roi Merlin, tiens, le roi Merlin, Pierrot,
le roi Merlin. le roi Merlin, t'es con, tu peux pas y aller. Non, ouais. C'est pas.
Non, mais c'est très... magnifique, hein, le roi Merlin.
Le roi Merlin,
il est magnifique.
Ah, j'ai mon cousin.
Fais tes courses là-bas, toi.
J'ai mon petit cousin qui travaille là-bas.
Un Truffaut aussi.
Un Truffaut, bien sûr.
Bien sûr, c'est pas le même environnement, François. Donc, c'est pas forcément Stade de France. Éric Dimeco.
Écoute, moi, nous, le problème avec Vincent, c'est que, alors moi, je suis plus vieux que lui. L'équipe de France au Parc des Princes, c'est vrai que ça représente tellement pour les mecs de ma génération. J'ai pas connu le Stade de France. C'est vrai que le Stade de France, c'est quand même le stade des champions du monde 98. Il y a une histoire aussi avec le foot. Moi, je trouve ça bien que, à ce moment, avec les matchs qui arrivent, puisqu'on nous explique que, avec les adversaires qui arrivent là, le Stade de France aurait pas été plein. J'ai compris que la FFF, ça les arrange d'être au parc, parce que ce sera plein, parce que l'ambiance, parce que l'ambiance va être top, parce que du coup ça va être rentable,
un peu plus faible,
remplir. Voilà. Donc je trouve ça bien. Après, la bonne nouvelle de cette histoire-là, c'est que la Fédé va pouvoir malgré tout avoir un deal un petit peu plus intéressant pour aller au Stade de France, et du coup ce sera gagnant-gagnant, quoi. Voilà.
C'est 900 000 balles le match.
Ça c'est pour la rugby.
Ça c'est le rugby. Si tu veux, on va essayer
foot,
de passer
plusieurs millions d'euros.
Voilà.
Exactement.
Voilà.
C'est un loyer à 7 millions d'euros avec l'ancien concessionnaire.
Mais
tu jouais tous tes matchs au Stade de France, alors que là, avec le contrat qu'ils veulent négocier, ça permet aussi de la flexibilité de jouer des matchs en région tout au long de l'année.
Après, moi, j'ai connu l'équipe de France qui vadrouille à Nantes, à Caen, à
Marseille,
à Saint-Étienne. Non, moi, j'ai jamais joué à Marseille avec l'équipe de France, mais dans des.
Mais elle est déjà venue jouer depuis l'équipe de France
oui,
à Marseille.
Je te dis, moi, j'ai connu la période où
les qualifs pour l'Euro, notamment en 96.
Voilà, exactement. Donc, je trouve ça bien, et on avait beaucoup aimé de se balader en France, parce que tu vas à la rencontre de ton public, quoi. Ouais. Et
c'est ce qu'ils ont
fait. Ça, c'est
bien
aussi. En Italie, c'est comme ça. Ils ont pas de stade. Ils vadrouillent. Il y a plein de pays où l'équipe vadrouille. Hein.
Tu le disais à l'époque. Moi, ça me fait du bien d'aller au contact des gueux. Tout ça, ça me fait plaisir de leur serrer la main et tous ces pauvres là qui nous encouragent.
Alors, on a Nani sur WhatsApp qui nous dit ras-le-bol de l'équipe de France. Au Stade de France, on ne peut jamais voir l'équipe de France en province pour une grande compétition, on s'en
c'est
fout
ça.
Des amicaux.
C'est ça.
Après, il y a des questions économiques aussi. Hein. La recette au Stade de France, forcément, elle est
bonne. Saint-Étienne ou Lens. Oui. Vu l'état du foot français niveau économiquement,
mais par rapport à autrefois, ça a moins d'intérêt, moins d'intensité. Les 20 000 ou 25 000 places, ça, c'est pas ce qui va faire basculer un budget d'une fédération. Je le crois pas. Je pense pas.
Ah, ça rapporte.
Oui, autrefois, oui, mais plus maintenant. Les sponsoring avec les télés, avec tout ça.
Oui, pour avoir une petite idée, il reste 5 000 places encore en vente pour le Parc des Princes ce soir. Ce soir.
Après, il y a un problème aussi, c'est que les matchs de qualif sont de moins en moins intéressants aussi avec ces nouveaux formats de tapettes d'affiches.
Avant,
des France République tchèque.
Francis Land, 70 000 Francis Land.
Francis,
le frère de Francis Cabrel. Écoute-moi, tu vas voir ça. Il y a déjà 70 000, mais qui va voir ces matchs? Parce que t'as pas envie d'y aller. Moi, je dis, c'est déjà magnifique qu'il y ait 70 000 pour aller voir un match de foot comme ça. Parce que moi, tu me l'offres, j'y vais pas.
Hein. Bon, quand même,
toi, frère, non. Mais
je suppose que
Denis en loge.
Non, mais est-ce qu'on est d'accord que les matchs de l'équipe de France de foot face à l'Italie, face à l'Espagne, face à l'Allemagne, face aux Anglais, on est bien d'accord que ces matchs-là, on attend qu'ils soient joués au Stade de France.
Mais au Parc des Princes,
parce qu'on en a l'habitude.
Oui, mais
parce qu'on a un pays centralisé, mais Italie, ils jouent toujours en province.
Oui, mais là, je ne parle pas d'Italie, je parle de chez nous. Mais même pour les spectateurs, je veux bien que vous parliez d'avant le Parc des Princes. Mais le quartier où on est là, sincèrement... Enfin, je veux dire, pour c'est quand même pas évident les flux des spectateurs, c'est quand même l'accueil des spectateurs aujourd'hui.
C'est sûr que
quand tu viens voir un sport,
dans un stade de 80 000.
Bah, t'as plus de place.
C'est Marseille qui peut recevoir.
Il y a l'accueil du public.
C'est pas de la génération, c'est aussi parce que vous êtes des sportifs qui avaient joué au Parc des Princes beaucoup et qui avaient beaucoup fréquenté le Stade de France depuis 98, depuis 25 ans. Il y a des gamins qui rêvent de voir le Stade de France. Ça, c'est un truc qui est
que nous on peut pas comprendre. Nous on est privilégiés, on va au Stade de France tout le temps, Vincent. On est pas blasé, mais on a l'habitude. Il y a des gens, la sortie de l'année, c'est d'aller voir le stade dans lequel Zizou était champion du monde.
C'est une, mais aujourd'hui une vraie c'est le stade des Jeux Olympiques aussi. C'est aujourd'hui le stade des Jeux Olympiques.
Et avec le Parc des Princes, malheureusement, plus les années passent, moins il y a ça.
Tu peux, oui, non, mais tu peux le reconstruire parce que tu peux dire la même chose. Tu peux dire
Parc des Princes.
Il y a eu, ça a été emblématique, ça a été historique. C'est le Twickenham. Regarde le Twickenham.
Oui, mais champion du monde. De France.
Oui, mais ça, c'est fan. Ils ont été champions du monde après. En 2018, ils l'ont été. Donc c'est. Je le comprends ce que
le
tu dis.
Le Stade de France se visite. Il y a des gens qui payent des billets pour visiter.
Je crois pas. Je crois pas que tu vas au Stade de France parce que Zizou a marqué deux buts au Stade de France.
Ah, ça joue. Et les JO,
et les JO, on a une histoire qui se construit.
Les JO, on fait beaucoup là-dessus aussi.
Et puis, l'histoire du parc. Moi, je ne parle pas de l'histoire du
parc. Est-ce que les gens viennent l'histoire du parc pour toutes les défaites de Marseille? C'est un petit quand même, Eric.
On a mal perdu.
Ouais, t'as peu. On n'a rien à voir dans ce débat.
Mais je trouve qu'au Stade de France, ça permet aussi aux régions, en tout cas des gens qui viennent de régions plus facilement, d'aller voir un match de l'équipe de France, la vérité.
Oui, non, mais d'accord, mais si on parle à Paris, oui, d'accord.
Oui, enfin, il n'y a pas que les Parisiens qui vont voir l'équipe de France.
C'est parce qu'il voit ce qu'il arrange lui.
Alors,
a priori, pour les deux prochaines saisons, on va beaucoup jouer au Stade de France, mais pas exclusivement.
C'est bon, le parc.
La Fédé a négocié la possibilité d'aller en province.
C'est quand même bien le parc. Affiches. Je suis allé voir un match de le France de fantastique. Au parc, c'est quand même quelque chose. Hein.
Kikadi à venir. Alors, je vous promets là un match très très serré dans ce Kikadi. Le dernier Kikadi avant le réveillon de Noël, c'est mouvant, Pierrot.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 17h45. Top jingle.
Top jingle.
RMC,
le Kikadi
du Super Moscato Show.
Alexandre face à David pour une semaine de vacances au ski à Rizoul, 1850.
Bonjour à tout le monde.
Alors, on a un supporter du PSG, un supporter de Strasbourg face à face. Alexandre, tu vas choisir ton équipe après le tirage au sort.
Il y a 20 secondes aujourd'hui, d'ailleurs, tiens.
Oh, enfin, cookie.
Alors là, c'est le l'ouvreur de l'Afrique du Sud.
Tu vas jouer, Pierrot, avec ton frérot, 20-20 Moscato.
Ok, nice, baby. Yes.
Stephen avec Eric.
Et Alexandre, avec qui veux-tu jouer?
Stephen et Eric.
Stephen et Eric, ok, ah, c'est parti.
Il n'a pas tremblé, il n'a pas hésité.
Il n'a pas hésité une seconde.
Stephen et Eric, vous attendez bien, tous les deux, dans la même équipe?
Ouais.
Vous avez un cri de guerre, tous les deux?
Ouais. Tout ça, ça chantera.
Allez, ensuite, Eric.
Allez, l'OM.
Chante bien, Eric. 10 minutes de Kikadi. À la fin du chrono, quel que soit le score, une golden carotte qui pourrait tirer au sort. Tu remettrais le score à 0-0.
Oui, comment
ça va, Bébé?
Oui, je regarde.
T'es motivé? Allez.
Je regarde mes notes.
Tu regardes tes notes? Super. BFTV. On démarre avec une question hors sport. C'est Eric qui me fait rire, désolé. Kikadi. Non, c'est une question que je vous pose. Dans quelle ville se trouve Zoran Mamdani?
New York,
Stephen.
Ah ouais, bien joué, Stephen.
Ah, c'est Pierrot. Ah, non,
c'est Pierrot.
C'est Stephen.
Facile. C'est qui?
C'est Stephen.
Franchement, il n'y a pas photo.
Zoran Mamdani, qui est favori.
Futur maire de New York.
L'élection, c'est dans la
bouche.
Il pourrait devenir maire de New York.
Communiste.
Non, mais je suis.
C'est celui que Trump traite de communiste. Lui, il ne se dit pas communiste.
Non. Voilà. C'est centriste.
On connaît beaucoup.
Ah bah, on dit communiste aux États-Unis, c'est les républicains chez nous.
Question en un coup du sport, du foot. Quel est le seul Français, parce que ce soir il y a PSG Bayern, quel est le seul Français qui a entraîné le Bayern de Munich?
Sagnol.
Oui. Oh, là, du 28 septembre au 5 octobre 2017.
On l'a dit en même temps, ça fait pas deux points, ça.
Bah, si vous voulez. Pour les stats, Eric. Vous avez
pour
un point chacun.
Je pars avant quand même, Eric.
Willy Sagnol. Qui est aujourd'hui sélectionneur de la Géorgie et qui s'éclate avec de bons résultats.
Avec Varachvelia.
C'est pas mal quand tu es dans ton équipe. J'ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais ne vous y trompez pas, je serai prête à apporter ma pierre à l'édifice et à le
battre. Sabalenka.
Arina Sabalenka. Il va y avoir un match face à Nick Kyrgios qui va être organisé. Un homme contre une femme en tennis. Ouais.
Et enlever le rideau, c'est Marion contre.
Contre Stephen Brun. Voilà.
mais faites-le, que tu te fasses rouster.
3-1. Je pense que. Thomas,
elle gagne.
Marion, là. Là, en ce moment, je pense qu'elle te met 3 et 3.
C'est beaucoup trop, je mets pas un jeu, je pense.
8 minutes.
0 et 1, tu vas faire.
0 et 1. Question auditeur.
Question auditeur, Alexandre et David.
Alexandre David, qui a dit ce week-end, j'avais besoin d'un petit peu d'amour. Il a dit ça parce qu'il était déçu de ne pas être dans le groupe. Mais il a joué ce week-end. Il a joué ce week-end, il était bon. Normalement,
Aldrit,
oui,
c'est bien joué. Qui a dit Aldrit?
C'est David.
Bravo, David.
David,
ça fait 3-2.
Magnifique.
J'allais dire, normalement, Aldrit, il est vice-capitaine du 15 de France.
Pas pour nous, Eric, David.
Ah bon?
Non.
T'es sûr?
Oui, sûr.
Est-ce que vous voulez 20 secondes?
Non, pour qui, pour qui? Ça dépend.
J'ai pas dit que c'était pour toi.
Ça veut dire.
Sacha Feinberg, Ngomezulu.
Sacha Feinberg, Ngomezulu, c'est l'ouvrage de la musique.
Paul Gustard.
Plus facile, on va faire rugby, équipe de France.
Un 20 secondes. Je rajoute un point à Stephen Eric.
On en a parlé depuis le début de la semaine, on l'a même reçu et tout. Donc tu as 20 secondes au top départ.
Ouais, ça va.
Vincent.
Il a fait l'apéro avec lui.
Pour me donner le prénom et le nom. Et bébé, du pilier gauche, qui sera très probablement titulaire.
Si, on l'a reçu.
Les Bleus,
oui, mais je sais, c'est le petit
il joue à Montpellier. Tu te souviens pas?
Non.
Prénom et nom. Ah non, mais attends, on l'a reçu.
Oui, je l'ai reçu. Je peux plus combien ça s'appelle. Tu le prends pas le temps.
Mais oui, mais il peut pas t'aider.
je donne la balle à.
Ah oui.
À Pierre. Ah mais non, mais on a le droit.
Non.
Mais quoi,
tu l'auras pas du coup.
Non, mais on a le droit.
Tu veux pas tenter des choses?
Non. Baptiste Erdosio.
4-2.
Franchement, si tu te concentrais, tu l'avais. C'est quand t'as fait refus de jeu.
Erdosio, refus.
T'as entendu 20 secondes, t'as dit non.
D'après moi, il a dû recevoir le truc, il n'osait plus le dire.
Question en un coup.
Non.
Une seule proposition possible, un coup. Pouf. Revenons sur ce terrible France-Afrique du Sud il y a 2 ans, en 2023. On aime se faire mal. Ouais. Quel joueur français ce jour-là a marqué 2 essais?
Il y a 2 ans, Biel Barré.
Éliminé. La Coupe du Monde de quart de finale.
C'est
un doublé. Hein.
Ouais. C'est
Benon.
Éliminé.
C'est Aldrit, non?
Éliminé. Stephen.
Voilà,
ça y est, je l'ai. On est dans le déni sur ce match-là. On l'a oublié, on l'a zappé parce qu'on est malheureux.
Je vais dire Jelonche.
Jelonche éliminé.
Mouraka, non?
Mouraka, il a marqué 1 essai.
Non.
Cyril Baye en a marqué 2.
Ah, c'est incroyable.
2 essais de Cyril Baye ce jour-là, on l'a oublié, tellement on était déçus.
4-2 toujours et 4 minutes 40.
On est sur un joli match, bravo à toutes et à tous. BFM TV. 4 minutes, BFM TV. Il est au cœur de l'actualité. Comment s'appelle le patron du BHV à Paris?
Ah, je l'ai vu, Ruffin. Non, ça c'était le de Shane, ça.
Ton micro, Vincent.
Il s'est mis un affiche sur le mur du BHV c'est un phénomène. Hein. Il aime bien ça.
C'est une grande famille. Ils ont plein de trucs là. Je crois. J'ai vu ça. Putain.
Ah, si vous l'avez pas, ça va être dur. Hein, si vous le regardez.
Je l'ai vu. Je l'ai regardé hier.
5.
Clin.
4. 3. 2. 1. Ce monsieur s'appelle Frédéric Merlin. On n'arrête pas de l'entendre.
Merlin, je savais qu'il avait un nom facile.
On a le roi Merlin.
On arrête. Ah oui, peut-être qu'on va monter un magasin dans le BHV. Ce serait beau quand même, non? Non, ouais. Frédéric Merlin, voilà, on n'arrête pas de l'entendre ces jours-ci dans tous les médias.
Le Merlinon.
Deuxième question auditeur du jour.
Deuxième 20 secondes.
Alexandre et David.
Alexandre
et David. Est-ce que vous écoutez RMC? Vous êtes des fidèles auditeurs d'RMC? Oui?
Oui.
Toute la journée?
Oui.
Ok.
Non, pas toute la journée.
Il est fan de rugby. Quel grand chef cuisinier a rejoint les GG cette saison? Non, sur RMC. Les grandes gueules. Marshall Cruchot.
Ah oui, c'est
Camp de Borde. Qui a dit Camp de Borde? Alexandre. 5-2.
Super, Alex.
Tu as fait la différence, Alex.
Bienvenue à Yves Camp de Borde, qui est très bon dans les grandes gueules.
Bravo, Alex. On va t'envoyer au ski, mon grand.
Et qui habite dans le Luberon.
Oui, ça y est, il a déménagé, il a changé.
Il a découvert le Luberon.
On
ne
pas si on l'a tous découvert, mais on n'a pas les moyens d'y aller. Pas comme toi.
Si seulement.
C'est vraiment con.
Qui a dit? Il est 2 minutes 40. Dans ce qu'il a dit. Qui a dit? Je suis fier d'avoir rencontré le roi Charles III. C'est un ancien joueur de foot.
Harry Kane, Wayne Rooney,
c'est Flamini.
Mathieu Flamini.
Ah oui, c'est Flamini. Mais oui, il y a avait des trucs bravo.
Lors d'un congrès de bioéconomie.
C'était il y a longtemps, c'est il y a une semaine.
Je vous en parlerai demain, Vincent. Le Daily Mail estime sa fortune, la fortune de sa boîte, à 10 milliards d'euros. Et c'est lui qui a eu l'idée de la conception de sa boîte.
Allez, Vincent, c'est maintenant que tu démarres. Bon.
Ancien joueur de l'OM.
C'est maintenant que tu démarres. Là, tu démarres. Tu t'es planté tout le match et là, pam. Trois plaquages, une interception.
BFM TV. Et c'est ah, Vincent, une urgence. C'est terrible.
Il est parti?
Non, c'est la prostate. Gardez mes petits-enfants, moi, je ne sais pas m'y prendre.
Michel Sardou?
Ouais, Michel Sardou. Oh, je ne sais même pas le nourrir avec un petit pot. Je n'ai jamais fait ça.
6, 3.
Voilà.
C'est pas le seul.
Il dit, quand mes enfants me disent, tu vas garder le petit, il dit non, vous prenez. Il veut pas.
Le caractère qu'il a, ça va être ton train.
Mais il doit être un peu nerveux.
Alors que t'as pas pu, tu les gardes.
Moi, je les garde.
20-20, il est.
Moi, j'essaye.
Il est présent, 20-20.
Non, mais je les garde. Je souffre.
En un coup. Très bien. C'est la Ligue des Champions cette semaine. Le 30 mai, c'est la finale de la Ligue des Champions à Budapest.
Ouais.
Quelles sont les deux équipes, attendez bien la fin de la question, quelles sont les deux équipes qui se sont le plus affrontées en finale? Donnez-moi cette affiche.
C'est une bonne question.
Trois fois.
Ah ben c'est Atlético Madrid. Atlético Real.
Atlético Real en finale, éliminé.
Real Madrid. C'est pas facile, je pense que ça doit.
Ça, c'est pas pour éliminer.
Liverpool.
Real Madrid, Liverpool, 20 est là.
Magnifique.
Il y en a eu 3.
6-4, allez. 3,
c'est
on peut
beau.
Le faire, on peut pas le faire, mais
Atlético Real, il y en a eu 2 de suite, mais je sais qu'il y en a eu un.
Mais ouais, non, Real Madrid, Liverpool.
Ça là, c'est pas ce que c'est. C'est un 2-2. Allez, vas-y.
Encore une question en un coup, on y va.
Ah, en un coup.
Nolan Le Garec pourrait débuter face à l'Afrique du Sud, numéro 9. Ouais. Il a débuté le rugby dans quel club?
Oh, c'est pas
ça. C'est quoi? C'est
Rive et tout,
Racing.
Éliminé.
Racing. Van.
Tout petit, il a débuté à Van. Nolan Le Garec.
7-4.
C'est Le Garec. Je le dis de suite, Vincent, tu déconnes ou quoi?
C'est une sonorité.
Le Garec, c'est breton. Je dis Van, ma foi, quand même.
Donc. 17h58, ça va 20 et 40 secondes.
Tiens, prends une bouteille vite.
Oh. Est-ce qu'il y a, alors là le score est fait, 7-4.
Allez, vas-y. Moi, tu sais quoi, Steve, je demanderais bien une golden, moi, du coup, pour rester
golden. Si une golden 40, c'est 0-0 balle de match. C'est la magie de ce sport.
Ça dessus.
17h.
Allez, Vincent.
17h58 et 55 secondes, la golden carotte est là.
Oh, oui. Quel enfoiré.
Balle de match.
Oh, quel salon.
Allez, Vincent, allez. Trouve-la.
Allez.
Vincent, ça va couler comme de l'eau de roche.
Oui.
Attention. Vas-y. Elle est pas facile. Qui qu'a dit? Il était important pour moi de m'innocenter.
Tibus.
Isaura Tibus. La championne de Fleury. Isaura Tibus. Tiro qui était blanchi.
Vincent David. Bravo David.
Mais où vas-tu, Vincent?
C'est bien, terminé pour aujourd'hui.
Oui.
On revient demain.
Bon réveillon à toutes et à tous.
Le 25 décembre, peut-être certains ouvriront encore des cadeaux, c'est possible.
Mange pas trop hein, ce
à
soir.
À 18h, hein. Modération. On va bien manger quand même.
Là, tu prends la voiture, tu vas à Orléans.
Orléans.
Mais tu es fou, toi.
Orléans, la Sologne, le rôti de biche.
Rôti de biche, voilà. Chasse, parce qu'on chasse en Sologne.
Voilà. Moi, je chasse pas.
Tu chasses
mais,
pas.
Mais dans la belle famille, ça se chasse pas non plus, mais ça achète de la biche. Voilà.
C'est très intéressant. Bon réveillon à tous et à demain. Salut.
À demain.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.